toujours avec vous. Donc désolé pour ceux qui étaient équipiers de louanges, qui étaient là la semaine dernière. Il y a quelques petits trucs que vous allez, voilà, qui vont vous parler déjà. Mais j'ai essayé de vous faire des petites surprises quand même au fur et à mesure pour que vous ne perdiez pas d'intérêt. Donc j'espère que ça ira. Cette semaine, je suis sorti de chez moi. C'était la nuit, parce que j'ai une vie trépidante. La journée, du coup, je suis un père de famille tranquille, et la nuit, je suis super-héros. Et du coup, je sors des fois de chez moi la nuit comme ça, et je suis sorti, et c'était la pleine lune. Je ne sais pas si vous avez pu apercevoir ça par les fenêtres. Et, alors, je ne sais plus le terme astronomique exact, mais je crois que c'est le périgée. C'est-à-dire que c'est le moment, en fait, de l'année où la lune est la plus proche de la Terre. Donc, on la voit bien en gros. On peut faire des jolies photos. Si elle est sur l'horizon, on peut faire des photos un peu de lune rouge et tout. C'est super beau. Et je réfléchissais un petit peu dans ma tête, parce que là, en ce moment, j'aime bien, je m'intéresse un peu à l'astronomie de très loin, et je suis un peu assez émerveillé, je ne pensais pas que c'était aussi vaste que ça. Et pour commencer ce temps, bah, je voulais partager des petites choses qui m'ont émerveillé cette semaine. Ah, ça ne marche plus. Ah oui, c'est là-bas. Ah, surprise. Non, ça ne marche plus. Allô ? Ah ? Non, je l'ai allumé. Ah, ça y est. C'est toi ou c'est moi qui a... Non, surprise. Est-ce que vous saviez que dans notre galaxie, donc on est dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, il y a 100 milliards d'étoiles. Il y a même certains qui estiment qu'il y en a jusqu'à 300, 400 milliards. Donc vous imaginez, on est là, et il y a 300, 400 milliards d'étoiles autour de nous, juste dans la Voie lactée. Rien à voir avec le lait, hein. Si vous, la Voie lactée, ça va, galaxie en rond comme ça, 300 milliards d'étoiles. Et je regardais une petite vidéo cette semaine où c'était quelqu'un qui essayait d'expliquer la distance qu'il y a entre le soleil et l'étoile qui est la plus proche de nous. Et donc il prenait une petite balle de golf comme ça, il la montrait, il disait voilà, ça c'est le soleil à l'échelle, c'est-à-dire que voilà, c'est la circonférence, tout ça, je la pose. Et puis il prenait sa voiture, et puis on le voyait faire 750 km jusque dans le sud de la France. Et puis il sortait de sa voiture, il disait, voilà, deuxième balle de golf, ça c'est l'étoile la plus proche du Soleil à l'échelle. C'est la distance qu'il faudrait faire en fait, depuis le Soleil pour retrouver la première étoile de ces 300 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Mais c'est juste une galaxie. Alors vous allez me dire, combien il y a de galaxies dans l'univers? Combien on en estime qu'il y en a? Il y en a 2000 milliards. C'est ça l'estimation. Alors, c'est impossible de savoir combien d'étoiles il y a dans l'univers. Mais si on essaie d'estimer, en fait, pour vous donner une idée de la taille, parce que c'est un chiffre qui est beaucoup trop gros, il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la Terre. C'est-à-dire, si vous prenez toutes les plages, tous les déserts, vous prenez tout le nombre de grains de sable qu'il y a sur toute la Terre, ben, il y a plus d'étoiles que ça. Et je réfléchissais à ça, du coup, pendant la nuit, en sortant et en regardant la Lune. Et je pensais à ce verset du psaume 8... Il nous dit, quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Et c'est un peu la question que je voudrais vous poser ce matin. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous êtes vivant au 21e siècle, en 2024? Qu'est-ce que vous faites dans cette salle ce matin? À quoi ça sert? C'est quoi le but? Alors pour ça, on va lire un texte qui est situé dans Éphésiens au chapitre 1. Et on va lire trois versets en particulier, ce sera notre texte du jour. Et je vais faire exprès, je ne vais pas le lire au début, parce que sinon, en fait, du coup, ça va casser toutes les idées que je vais développer après. Donc je vais le lire au fur et à mesure, d'accord? Et on va commencer avec le verset 3. Et vous voyez le titre de ce message, « La louange, une affaire de famille ». Je pense que pendant les deux premiers tiers de ce que je vais partager, vous allez vous dire, il ne parle pas du tout de louange. Il a raté son titre, ou il a raté sa prédication, ou les deux. Et d'ailleurs, vous notez, hein, si vous vous demandez si j'ai volé le PowerPoint de Laurent en fait, pour ma prédication, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit comme ça, si la prédication est ratée, au moins le PowerPoint, il a réussi quand même, quoi. On va commencer avec le verset 3. Pour donner le contexte de ce chapitre, en fait, vous savez, quand on veut comprendre une histoire, c'est bien de la commencer au début. Vous êtes d'accord? En général, si on veut comprendre, il faut commencer au début du livre. et finir à la fin. Alors pour la parenthèse, mon fils, il fait l'inverse. Quand il a un nouveau roman ou un nouveau livre à lire, il lit d'abord la fin, comme ça il n'y a pas de surprise, et puis ensuite, il lit l'histoire depuis le début. Mais bon, normalement, on commence à la première page. Donc là, on se dirait, si on veut comprendre l'histoire de la Bible, il faudrait commencer à Genèse, chapitre 1, c'est la première page. Eh bien non, parce que du coup, la Bible n'est pas vraiment un livre chronologique, et si vous voulez comprendre la création du monde, il faut remonter à ce qu'il y avait avant la création du monde. Et ça, ça nous est expliqué dans ce chapitre de Éphésiens au chapitre 1. C'est ça qu'on va lire du coup ce matin. Si vous aimez bien l'apôtre Paul, bon, j'aime bien, mais par contre, si j'avais un truc à lui dire, c'est qu'il fait des phrases très longues. Donc en général, quand on lit les lettres de l'apôtre Paul, il commence une phrase au verset 3, et puis 21 versets plus tard, il met le point. Donc il faudrait lui expliquer, hein, si jamais quelqu'un était coach en communication auprès de l'apôtre Paul, de lui dire « fais des phrases plus courtes, les gens ils n'ont pas une capacité d'attention aussi longue ». Et puis des fois, l'apôtre Paul il se perd dans des explications, on ne sait pas pourquoi, il nous explique des choses des fois dans certaines de ses lettres, on dit « mais ça n'a rien à voir avec ce que tu disais juste avant ». Mais bon, bah écoute, c'est ta lettre, tu mets ce que tu veux dedans, vas-y. C'est pour ça que j'ai une affection particulière pour ce chapitre de Éphésiens 1. C'est comme si Paul, il arrivait, en fait, et puis pour une fois, il dit « Allez, je vais arrêter de faire des longues phrases, je vais vous résumer en quelques lignes quel était le plan de Dieu pour l'être humain. » Vous allez voir, c'est assez simple. Et il commence au verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. » C'est une belle introduction. Ce que j'aime bien dans ce verset, c'est qu'il nous donne une petite réponse à une question qui est centrale dans l'histoire de l'être humain en général. C'est une question que depuis des milliers d'années, les êtres humains se posent. C'est comment est Dieu ? Comment est Dieu ? Ce n'est pas un être humain, alors comment on fait pour être en relation avec lui ? Et la Bible, elle nous donne une réponse assez claire dans 1 Jean au chapitre 4, au verset 16. C'est un verset que vous connaissez bien, que vous citez sûrement régulièrement. C'est « Dieu est amour ». Comment est Dieu ? Il est amour. Mais si on réfléchit en fait au fait que l'amour, ce n'est pas juste une caractéristique, une qualité de Dieu, comme moi par exemple j'ai bon caractère, enfin peut-être, ce n'est pas une qualité seulement, c'est l'essence profonde de qui Dieu est, c'est qu'il est amour. Il a toujours été amour et il le sera pour toujours, c'est toujours qui il est, la description la plus profonde de son être. Si on remonte avant la création du monde et de l'univers, etc., quand il n'y a que Dieu en fait tout seul, comment c'est possible d'être amour si vous n'avez personne à aimer ? Si votre amour n'a pas d'objet, est-ce que c'est possible que votre caractéristique principale, ce soit quand même l'amour ? Eh bien, la Bible nous donne une réponse pour cette question qui est un peu alambiquée, je vous l'accorde, mais qui est quand même assez importante. Comment est-ce que Dieu est amour ? Et c'est là, en fait, qu'on va étudier un peu plus la doctrine de la Trinité divine. C'est un truc un petit peu difficile à comprendre, hein. Des fois ça nous fait des nœuds au cerveau. Mais pour résumer, en fait, cette doctrine, elle nous dit que Dieu est à la fois une seule personne. Les Juifs, ils utilisaient le mot « Erad », vous savez, dans la prière en fait, la plus importante du judaïsme. « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, l'Éternel est un ». Une seule entité, une seule personne. C'est pour ça qu'on a parlé de monothéisme. C'était une coupure avec toutes les traditions, les cultures précédentes pour qui il y avait des dieux. En fait, derrière chaque arbre, derrière chaque rivière, chaque ruisseau, chaque étoile, il y avait une divinité en fait, spécifique et il ne fallait pas l'oublier, sinon on allait avoir des problèmes, etc. Et là, en fait, ben, l'histoire du judaïsme, c'est qu'il y a un dieu qui est Erad, il est un. Et en même temps, ce Dieu qui est un, il est trois personnes en une seule. Et c'est ce que la Bible nous démontre. Et donc ces trois personnes, vous les connaissez, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, qui a été envoyé sur la terre, qui a pris forme humaine, qui est mort pour nous, qui est ressuscité après être mort à la croix et qui est remonté auprès de son Père. Et la troisième personne de la Trinité divine, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et cet esprit, Jésus a dit, je remonte auprès de mon Père, mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie mon esprit, et il sera en vous. Et je suis avec vous par mon esprit tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi est-ce que je vous fais des jolis schémas comme ça ? Vous voyez les petites flèches dans ce cercle, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Ces petites flèches, elles représentent la qualité de relation qui existe entre les trois personnes de la Trinité divine. Quand vous étudiez dans la Bible, en fait, comment est-ce que Dieu le Père se comporte par rapport à son Fils ? Comment est-ce que Dieu le Père se comporte par rapport à son Esprit ? Comment est-ce que Jésus se comporte par rapport à son Père et par rapport à l'Esprit de Dieu ? Comment est-ce que le Saint-Esprit se comporte par rapport au Père et au Fils ? En fait, vous voyez effectivement que c'est que de l'amour. Il n'y a pas de compétition en Dieu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité divine sont toutes entières impliquées dans le projet en fait, qu'elles ont fait de créer l'être humain et de venir le racheter après la chute. Et quand Jésus vient et qu'il s'incarne sur la terre, il ne s'est pas évadé en fait, du ciel pour venir. C'est un projet en fait, de toute éternité qui est du Père, du Fils et du Saint-Esprit ensemble. Dieu dans son entièreté. C'est un amour infini qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors si vous n'avez jamais fait ça, je vous invite à regarder, mais pour donner quelques exemples, le Père, il va dire qu'il chérit jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait demeurer en nous. C'est un verset qui dit ça. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous, le Père chérit cet Esprit jusqu'à la jalousie. Ça vous montre le degré d'amour que Dieu le Père a pour le Saint-Esprit. Et puis par exemple, le Fils, il va dire « Moi, de toute manière, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Quand le Père fait quelque chose, je fais pareil. » Toute l'affection en fait, de Dieu, elle est placée dans Jésus, son Fils. C'est ce qu'on voit au moment de l'épisode du baptême, vous savez. Quand Jésus sort de l'eau, il y a les cieux qui s'ouvrent, il y a cette colombe qui descend de l'Esprit sur lui. Et puis il y a la voix du Père qui résonne et qui dit « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. » Pour prendre une image, c'est un peu comme quand mon fils il a réussi à faire finir le puzzle et que je dis « Oui, il a réussi !» En fait, c'est comme si le Père, à ce moment-là, il ne peut pas se retenir en voyant en fait Jésus qui rentre dans son ministère, qui lui soumet sa volonté, qui rentre en fait dans le projet qu'ils ont fait depuis la nuit des temps en fait pour l'être humain. Le Père, il ne peut pas se retenir à ce moment-là. Il dit « Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez tout le monde, c'est mon fils. C'est mon fils. » Et le Saint-Esprit, c'est peut-être... Il y a un pasteur qui a surnommé le Saint-Esprit, dire c'est un peu le Dieu inconnu. Parce que le Saint-Esprit, on ne sait pas toujours trop quoi faire avec. On voit bien qu'il est dans la Bible, mais au quotidien, qu'est-ce qu'on fait avec quoi ? Le Saint-Esprit, dans la Bible, en fait, son rôle, c'est d'attirer en fait, notre attention sur le Père. C'est dans Romains, au chapitre 8, on lit le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption. C'est par lui que nous pouvons crier « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui va prendre tout ce que Jésus a accompli et qui va le rendre réel à l'intérieur de nos vies. Il va prendre en fait tout ce que Jésus nous a acquis par sa mort à la croix et par sa résurrection. Et pour que ça ne reste pas des mots sur du papier ou sur une tablette numérique, eh bien, il va le rendre vivant à l'intérieur de nous. Donc ce que le Saint-Esprit aime faire, c'est attirer le projecteur sur le Père, attirer le projecteur sur le Fils. Je ne connais pas d'équipe humaine qui fonctionne comme ça, malheureusement. Hein. Même dans l'Église, en général, si on n'est pas un petit peu mis en avant, ça ne nous va pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui prend notre place, on s'assoit tous les dimanches au troisième rang, c'est la place des jeunes. Et ben, s'il y a une personne âgée qui s'y assoit, et ben, ce n'est pas juste, c'était ma place. Il n'y avait pas mon nom dessus, mais tous les dimanches, c'est ma place. Voilà, dans une équipe humaine, ça ne fonctionne pas. Notre amour, il est imparfait. Mais dans l'équipe divine, c'est un amour infini. Et les premiers théologiens de l'Église, ils ont essayé de formaliser ça et de donner un mot. Alors, si vous voulez briller en société cette semaine dans un dîner, vous pouvez citer le mot péricorèse. C'est le mot savant qui a été utilisé pour décrire l'union parfaite du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cet amour infini. Et donc, ils ont dit, ben, la péricorèse, voilà, c'est un cercle d'amour infini entre Dieu le Père, Dieu son Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ou un cercle, c'est joli déjà, c'est juste tout rond, tout ça, mais une autre image qui a été utilisée, c'est une danse d'amour divine, parce qu'il y a toujours cet amour qui est en mouvement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la dernière image que j'aimerais vous laisser, c'est qu'on a affaire là à une sorte de famille, la famille divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors normalement, à cette étape de la prédication, vous avez déjà fait sauter les neurones entre les étoiles au début, le nombre d'étoiles, et puis là, trois personnes en une personne en trois, tout ça, et le péricorèse, boum. Normalement, là, en fait, votre cerveau a déjà explosé. Mais je vais essayer de vous donner une métaphore, en tout cas une image de comment est-ce qu'on peut être un et plusieurs en même temps. Parce qu'il y a quand même des choses sur Terre qui nous font penser un petit peu à ça, qui sont des images lointaines de ça. La première, du coup, je l'ai testée pour vous il y a 10 ans. Je me suis marié avec mon épouse, du coup. Et pendant la prédication, certainement, le pasteur a cité ce verset de la Genèse que vous connaissez bien, « L'homme quittera son père et sa mère ». Dans mon cas, c'était important, parce que du coup, j'étais un peu proche de mes parents, il fallait mettre un peu de distance. « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux... » Deux, pardon, c'est moi, j'ai eu le souci, coordination. « Et les deux deviendront un, une seule chair. » Et c'est vrai, si vous regardez les couples autour de vous, notamment ceux qui ont marché ensemble pendant 10, 20, 30 ans, 40, 50 ans, il y a cet aspect où plus ils sont ensemble et plus ils se ressemblent. Alors pas forcément physiquement, parce que des fois il y en a quand même un qui est plus joli que l'autre, c'est pas ça que je veux dire, mais dans leurs émotions, dans leur capacité à réfléchir, dans le regard qu'ils posent sur la vie, dans leurs amitiés, dans leurs relations. Il y a comme un chemin qui s'opère du coup entre deux personnes. Et le mariage, c'est ça qui est beau, c'est que petit à petit, en fait, les deux deviennent un, effectivement, quand ça se passe bien. C'est un peu l'objectif, voilà. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, le mariage, parce que c'est une image d'une relation beaucoup plus importante et beaucoup plus profonde, de l'amour même, en fait. La source de l'amour, c'est la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la relation, en fait, entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, c'est une image de cette relation-là. Pourquoi on est là ce matin ? Parce qu'on fait partie d'une... Église. Et l'Église, là aussi, en fait, on est plein d'individualités, de personnalités différentes, de tempéraments variés. Et pourtant, en fait, on est rassemblés et on fait partie d'une entité. Hein, la Bible dit, vous faites partie du corps de Christ, une seule entité. C'est-à-dire notre petite base ici à Chambéry, mais finalement, tous les chrétiens sur toute la terre qui se réunissent comme nous, en fait, qui se rassemblent autour de la personne de Jésus, c'est une entité en soi qu'on appelle l'Église, avec un grand E, le corps de Christ. Et donc, on est à la fois un, et on est à la fois, en fait, une multitude. C'est des petites images qui peuvent peut-être nous aider à comprendre, en fait, la relation qui se passe en Dieu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va avancer un petit peu plus loin dans ce passage. Peut-être, oui. Verset 4, « En Jésus, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints, et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin ? Pourquoi est-ce que vous êtes vivant ? Pourquoi est-ce que vous avez pu respirer il y a une seconde et que vous allez recommencer ? Parce que si vous remontez en fait toute l'histoire de l'humanité, vous passez par la Révolution, le Moyen-Âge, vous faites un petit coucou aux Gaulois, aux pyramides, un petit check à Adam et Ève, en disant « touche pas à l'arbre, touche pas à la pomme », puis vous remontez, jusqu'au moment en fait où rien n'existe encore. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'univers, il n'y a rien du tout, à part Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à ce moment-là ? Eh bien, ce verset, il nous donne la réponse. Dieu est en train de penser à toi. Il est en train de penser à chacun d'entre nous. Pas juste comme si on était des milliards de fourmis, comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà joué à Sims. Au Sims, vous avez des petits bonhommes comme ça, que vous les faites agir et tout. Ce n'est pas du tout ça. En fait, par rapport à chacun d'entre nous, Dieu a une pensée, en fait, une intention. Il pense à la manière dont il va dessiner nos sourcils. Au nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Des fois, c'est facile, il y en a de moins en moins, donc mais bon, Yves, tu me comprends. Il pense à comment est-ce qu'il va nous façonner à l'intérieur, notre sensibilité, notre capacité à réfléchir. Il va penser peut-être à ce qui va nous rendre différents et uniques de tous les milliards d'êtres humains qui vont exister sur Terre au fur et à mesure de l'histoire. Et surtout, il va faire un projet. Il va faire un rêve pour chaque être humain qui va être créé. Et ce rêve, c'est que dans l'espace de sa vie sur Terre, chaque être humain puisse répondre à cette invitation de la famille divine. Est-ce que tu veux faire partie de ce cercle d'amour infini ? Alors ça aussi, j'ai testé pour vous, du coup, avec Élise. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler des abeilles, des choux et des roses, mais en gros, dans une relation en fait, entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage, quand il y a beaucoup d'amour qui circule, à un moment, ça ne suffit plus d'être juste tous les deux, en fait. Et du coup, il faut partager cet amour avec un autre objet. Et c'est comme ça qu'on a eu un petit garçon, du coup, qui est à l'église junior en ce moment. C'est qu'on a étendu la famille. On a pris ce petit cercle d'amour qu'il y avait entre mon épouse et moi, et on a décidé de l'ouvrir et d'accueillir, en fait, notre fils pour qu'il fasse partie de notre famille. C'est exactement ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait avec nous. Avant de créer tout ce qui existe, ils ont pensé à chacun d'entre nous et ils se sont dit, on va créer tout ça pour leur proposer de faire partie de notre famille. D'entrer dans le cercle d'amour infini de l'amour de Dieu. D'entrer dans cette danse d'amour divine. C'était ça le rêve que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. C'est ça le projet de toute éternité que Dieu avait fait. Et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Parce que quelque part, vous avez répondu à un moment à cette proposition, à cette invitation que Dieu vous a faite de dire « Est-ce que tu veux faire partie de ma famille ? Est-ce que tu veux accepter ce choix, cette élection pour toi, ce désir qui était le mien de t'aimer, de te faire entrer dans la famille de Dieu par Jésus-Christ ? Est-ce que tu veux répondre à cet appel ?» Et du coup, c'est pour ça qu'on est réunis ensemble ce matin. Alors vous allez me dire, c'est joli, mais quel rapport avec la louange ? Alors ça, j'avais déjà dit. Ah oui, je vais trop vite, évidemment. Donc du coup, on a été créé par amour et on a été créé pour l'amour. Et en fait, pour que ce soit de l'amour, il faut qu'il y ait une possibilité de choisir. Si vous étiez programmé pour aimer Dieu et pour lui dire oui, vous ne seriez pas dans une relation d'amour avec lui. Vous seriez dans une relation d'esclave, de robot, comme si on était une armée de robots, vous savez, comme dans les films de science-fiction. Si vous n'aviez pas la possibilité de dire non, ce ne serait pas de l'amour. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut que deux personnes se choisissent mutuellement. Et Dieu, en fait, c'est lui la source de l'amour. Et il sait très bien comment ça fonctionne. Lui, il nous a choisis. Et du coup, en fait, il attend que nous, on puisse le choisir. Donc, c'est la grande question qui est posée pour ta vie, qui est posée sur la vie de chaque être humain. C'est pour ça qu'on essaie de témoigner de Christ et de partager, en fait, ce qu'on a vécu quand on l'a rencontré autour de nous. Parce que cette question, c'est la même pour chaque être humain. Est-ce que tu veux accepter l'invitation de Dieu ? Est-ce que tu veux rencontrer son amour ? Est-ce que tu veux faire partie de la famille de Dieu ? Je voulais vous lire un petit texte que j'ai lu hier dans le train. Parce que je vous ai dit, j'ai une vie trépidante, donc des fois je suis dans le train comme ça et je lis des livres. Et c'est un auteur que j'aime bien qui s'appelle Jacques Ellul. C'était un théologien protestant qui vivait au XXe siècle, du coup, qui est décédé il y a quelques années. Et il a écrit 55 livres. S'il en avait fait 11 encore, il aurait pu faire une Bible, presque. Mais il s'est arrêté avant, et le 55e, son tout dernier, c'est un peu le testament. Quoi. C'est le dernier, et ça s'appelle « Ce que je crois ». Et il y a le début d'un chapitre où, en fait, ça décrivait très bien ce que j'essayais de partager ce matin. Donc, je vais vous le lire. Il commence avec ce verset de la Genèse, qui, quand Dieu, en fait, crée toute chose, et puis le septième jour, il regarde tout et il dit « Mais c'est très bon ». Et du coup, il décide de se reposer. Et du coup, il dit « Rappelons d'un mot ce que chacun sait. Le septième jour, le chiffre 7, c'est le nombre qui parle de la perfection. Dire que tout est très bon, c'est dire que l'on est arrivé à l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans la création. Après que Dieu ait tout fait, il se repose. Et ainsi, le repos de Dieu, c'est le commencement de la création. » Et ce n'est pas la création de l'homme qui marque l'ultime étape, c'est le repos de Dieu. Dieu se retire dans son repos, mais ce n'est pas parce qu'il veut avoir une sorte de loisir ou qu'il est fatigué. Ce n'est pas une récréation que Dieu se donne, c'est infiniment plus que cela. C'est un repos qui exprime la plénitude. Dieu, parce qu'il est amour, ne pouvait pas laisser son amour dans le vide. Il fallait qu'il eût en face de lui quelque chose et quelqu'un à aimer. Il crée à sa mesure, c'est-à-dire un nombre que nous découvrons chaque jour plus immense de galaxies. Mais l'amour ne peut être enfin heureux que si l'objet de son amour répond à cet amour et l'aime à son tour. L'œuvre s'achève quand Dieu place dans cet univers l'être minuscule qu'est l'homme, mais qui est capable de ce dont le reste de la création n'est pas capable, l'amour. Cet homme est créé pour l'amour, pour éprouver l'amour de Dieu, pour y répondre et pour porter à Dieu tout l'amour, toute l'adoration de la création. À ce moment, la création est enfin achevée. Et on finit sur ce dernier verset, du coup, qui fait le lien avec la louange. Voilà ce que dans sa bonté, Dieu a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Il y a d'autres traductions qui disent qu'il nous a créés à la louange de la gloire de sa grâce. La louange, elle prend place dans ce contexte-là. Et vous remarquez avec moi que dans ce verset, il n'y a pas d'instrument de musique. Il n'y a pas de batterie, merci Seigneur. Mais il n'y a pas non plus de violon. Il n'y a pas de chant, il n'y a pas de musique en fait. Ce verset, il nous parle de louange parce que la louange, c'est notre expression naturelle d'affection et d'amour envers Dieu. Qu'est-ce que c'est la louange ? Alors, si on peut donner quelques définitions, la louange, c'est quand on cherche à mettre en pratique ce que Jésus a appelé le plus grand commandement. Vous connaissez hein, ce verset dans Matthieu, chapitre 22, verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Quand on essaie de mettre en pratique ce verset, d'apprendre à aimer Dieu de plus en plus, chaque jour de notre vie, de lui faire de plus en plus de place, d'être de plus en plus en relation avec lui, eh bien c'est ça la louange. La louange, c'est l'art de recevoir l'amour de Dieu pour nous, cet amour infini, et de pouvoir à notre tour lui exprimer notre amour et notre affection. Parfois, notamment ce matin, ça s'exprime avec des chants et de la musique, et un moment communautaire joyeux comme on a pu avoir, et de chants où on exprime notre affection à Dieu. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans la présidence de Fanchon. Je m'étais pas concerté avec elle sur le thème profond de ma prédication. Je lui avais dit que je parlerais de louange, mais je n'avais pas insisté sur le fait que j'allais aborder ça par l'amour, en fait. La relation d'amour qui existe entre Dieu et nous. Et on a beaucoup chanté à Dieu qu'on l'aimait ce matin. On a beaucoup chanté, en fait, notre affection pour lui. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. On pourrait se dire à quoi ça sert ces chants tous les dimanches, c'est sympa, c'est convivial, c'est fraternel, et ça nous réchauffe un peu comme ça, les voix qui s'élèvent, c'est chouette. C'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Même dans une relation entre deux êtres vivants, entre un homme et une femme, en fait, chanter un chant d'amour à l'autre, c'est peut-être une des expressions d'affection et d'intimité les plus romantiques, les plus profondes, où on peut mettre peut-être les sentiments qu'on préfère. Peut-être vous avez, si vous êtes marié, une chanson qui fait écho dans votre relation, où vous avez dansé ensemble peut-être la première fois, ou à votre mariage, c'est la chanson qui ouvrait le bal. La musique et les chants, en fait, c'est des expressions aussi d'amour et qui nous aident peut-être à exprimer nos émotions et nos sentiments. On est tous un peu câblés différemment. Peut-être c'est difficile pour vous, en fait, de dire « je t'aime » à votre conjoint ou de montrer de l'affection à vos amis, mais ce n'est pas grave, en fait. Ces moments de chant et de musique qui nous aident, en fait, à exprimer ces émotions et ces sentiments, peut-être qu'on a du mal à exprimer par ailleurs, à Dieu et dire « Seigneur, tu es formidable ». Et nos vies, en fait, aujourd'hui, elles sont formidables aussi. Bien sûr, il y a des combats, bien sûr, il y a des épreuves. Mais Seigneur, on t'a, toi, tu es là, en fait, dans nos vies, tous les jours. C'est toi qui nous soutiens, qui nous protège, qui nous ramène, qui nous console. Merci, Jésus, parce que tu es là. Et on t'aime. Et tous les dimanches, on revient. Et tous les moments, en fait, où on vient louer Dieu comme ça, on vient à nouveau lui dire, mais qu'est-ce que nous t'aimons, Seigneur Jésus ? Et à nouveau, on vient recevoir, en fait, cette affection aussi de Dieu pour nous. Moi, je me suis senti vraiment... et encourager, en fait. C'était une semaine difficile émotionnellement pour moi. Ce matin, dans le temps de louange, de pouvoir me placer devant Dieu, avec vous tous, de pouvoir lui dire, Seigneur, je t'aime. Tu es tellement important, tu es tellement présent dans nos vies. Merci, Jésus. Je me sens encouragé, je suis prêt à repartir, en fait, pour cette semaine. Ça a visité, en fait, l'amour de Dieu a visité, en fait, mes émotions et mes sentiments dans ce temps qu'on a partagé ensemble. Et du coup, je peux continuer encore cette semaine et continuer ce que le Seigneur va placer devant moi. Donc c'est la première chose que je voulais vous laisser, c'est avec ça qu'on a ouvert en fait ce temps avec l'équipe de louange. Je veux dire, la louange, qu'est-ce que c'est ? C'est une affaire de famille, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de relation. Et c'est pour ça qu'on a ces temps de chant et de musique, c'est parce qu'ensemble, on veut s'approcher de Dieu, on veut recevoir son amour en église, en communauté, et puis on veut nous aussi pouvoir lui exprimer quel Dieu merveilleux il est, et combien nous sommes privilégiés de pouvoir l'aimer et de pouvoir lui dire à haute voix, de pouvoir lui exprimer. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci parce que tu n'as pas été comme nous, égoïste. Tu n'as pas gardé en fait cet amour infini entre Jésus, le Saint-Esprit et toi, comme si c'était quelque chose qui vous était réservé. Mais tu as cherché un objet, Seigneur, à ton affection, et tu nous as créés pour ça. Tu nous as placés, chacun d'entre nous, dans ce temps, dans cette époque, dans cette ville, à Chambéry. Et tu as formé en fait ce désir profond de pouvoir vivre cette relation d'amour avec toi au quotidien. Que nous puissions accepter de recevoir ton amour et que nous puissions nous aussi choisir de t'aimer. Alors Seigneur, ce matin nous nous approchons de toi et nous voulons te dire oui. Seigneur, nous choisissons la louange, nous choisissons de t'aimer, nous choisissons de répondre à ce rêve profond que tu as fait, qu'un jour nous allions pouvoir rentrer dans cette relation avec toi. Et Seigneur, nous prions, fais-nous grandir dans cet amour, Seigneur, que nous puissions apprendre à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Fais-nous grandir en tant qu'Église aussi dans cette vocation qui est la nôtre de te louer et de t'apporter la louange de nos cœurs et puis aussi de toute la création. Merci Jésus, parce que tu es le centre de toute notre affection, Seigneur, et c'est par toi que nous avons été réconciliés avec le Père. Merci Saint-Esprit, parce que tu es cet ami au quotidien, tu es ce Dieu agent secret à l'intérieur de nous qui est là pour nous aider et pour nous conduire et nous conseiller au quotidien. Seigneur, c'est notre privilège de pouvoir être appelés tes enfants. C'est notre privilège de pouvoir faire partie de ta famille. Alors reçois encore, Seigneur, ce matin, notre louange et notre adoration. Amen. On va prendre un chant, c'est ça ?